Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la piste. Encore un plaisir de vous retrouver ce matin dans ces derniers numéros de votre magazine Okapi Service, en tout cas pour la semaine. Et aujourd'hui, on va parler de comment s'est fait la gestion du stock des produits pétroliers. Nous avons déjà en ligne Tony Tchermani, conseiller technique au ministère des Hydrocarbures. Monsieur Tony Tchermani, bonjour. Monsieur Tony Tchermani, vous êtes en ligne?
Oui, bon. Je suis en ligne.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder cette question sur la gestion des produits pétroliers. Un autre sujet qu'on va aborder après le flash d'information de 11h heure de Kinshasa, c'est bien sûr votre chronique électorale et on va parler de ce que fait la CENI dans le cadre de la révision du fichier électoral. Jean-Baptiste Etipo, directeur de communication à la CENI, sera notre invité. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. Alain Goy est à la mise en onde de Tatima Pourquoi, la réalisation et coordination. Au micro, c'est Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matouek. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiokapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
La manipulation de certains produits qualifiés de dangereux nécessite le respect de certaines normes. C'est le cas des produits pétroliers dont la conservation, manipulation, stockage doit se faire dans le strict respect des règles, sinon ils peuvent constituer un danger pour la population. Cependant, ces principes sont foulés aux pieds par bon nombre de Congolais qui font les stocks du carburant sans respect des normes. Alors on va parler de la gestion de tous ces produits avec notre premier invité, Tony Tchermani, conseiller technique au ministère des Hydrocarbures. Je rappelle le numéro des contacts si vous voulez intervenir. Composez les 081-890-63-94 ou les 099-706-63-94. Tony Tchermani, rebonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la gestion de stock, en tout cas des produits pétroliers. Alors dites-nous d'abord, si vous voulez d'abord nous énumérer ces différents produits pétroliers.
Les différents produits pétroliers sont définis dans la loi, hein, dans la réglementation même du ministère des Hydrocarbures. C'est pas des choses qu'on invente. Donc vous avez les produits terrestres, notamment les gazoles, l'essence. Ça, je cite les produits couramment utilisés.
Oui.
Vous avez aussi les fourmis, hein. Et puis vous avez les GPL, les gaz de pétrole liquéfié, c'est le gaz de ménage. On voit à travers les stations services. Les différents. Aussi les produits d'aviation connus sous le nom de kérosène, les jets A1.
Ah, voilà, c'est ces différents produits. Vous avez dit, c'est bien connu. Et d'abord, c'est des produits reconnus par la loi et qui nécessitent le respect de certaines normes. Alors, quelles sont ces normes?
Que les normes, les spécifications font l'objet de tout un arrêté. C'est pas des choses comme les gens en parlent comme ça. Il y a tout un arrêté ministériel qui fixe les spécifications des produits pétroliers concernant la République démocratique du Congo. Donc c'est un arrêté qui déroule un certain nombre de, comme vous l'avez dit, des normes, des paramètres qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Lorsqu'un produit arrive, c'est cet arrêté-là qui est utilisé par les différents terminaux, les sociétés de logistique qui reçoivent les produits pétroliers et qui doivent scrupuleusement respecter ces normes-là, observer les différents points, les différents éléments de cet arrêté pour apprécier la conformité d'un produit qui doit être consommé à la République démocratique du Congo. Et rapidement, je vous dis, lorsque un navire s'annonce, par exemple, pour amener des produits, il doit au préalable déjà envoyer aux terminaux ce qu'on appelle les certificats de qualité des produits. Il envoie déjà ces documents aux terminaux avant, 72 heures avant que les navires n'arrivent, et lorsque les pétroliers, enfin les terminaux donnent l'air OK, c'est alors que le bateau va arriver. Donc, lorsqu'un navire arrive, c'est en connaissance de cause que déjà tout le monde est saisi de ce qui attend, de ce qui doit attendre cette cargaison-là. Vous avez notamment, il y a toute une série de spécifications. Vous avez le paramètre chimico-physique du produit, vous avez la coloration, vous avez les produits. Par exemple, rapidement, en RDC, l'essence que nous consommons doit être colorée en rouge, ce qui est différent, par exemple, du Congo-Brazza, vous avez en jaune vif, etc. Chaque pays a sa conformité. Nous en avons aussi les nôtres. Il y a plusieurs éléments. En ligne d'appréciation, vous avez l'odeur, vous avez la masse volumique, vous avez la distillation, indice d'octane, tout ça. Vous avez plein de choses. Les taux en soufre, à plomb, etc. Donc il y a plusieurs, vous avez les teneurs en oxygène. Bref, il y a toute une série d'éléments physico-chimiques qui doivent être appréciés pour déclarer qu'un produit est conforme au spectre de la RDC, doivent être consommés en RDC.
Alors une fois que le produit a la qualité est certifiée, la qualité de ces produits est certifiée, alors comment doit se faire la gestion?
Alors, ce qui se passe, c'est que je vous ai dit que le produit rentre par les terminaux. Oui. Dans le cas d'espèces, par exemple, vous avez à Mwanda, Banana, et vous avez aussi à Mata, du Mistel Congo. Lorsqu'un navire arrive, voici ce qui se passe. Je vous ai déjà dit, l'arrivée du navire est précédée par l'envoi auprès de ces terminaux et du certificat qualité. Alors, lorsque le navire arrive physiquement, on commence par prélever l'échantillon dans ces navires-là, dans les différents cales de ces navires. On prélève l'échantillon. L'échantillon passe aux analyses et c'est après 6 heures de temps au moins qu'on doit rendre les résultats de l'analyse pour dire si le produit est conforme ou non. Alors, s'il y a une petite différenciation, comme c'est le cas qui est arrivé dernièrement, s'il y a une petite différenciation sur l'un ou l'autre élément, alors c'est à l'OCC, il appartient à l'OCC, qui est l'organe habilité à faire ce boulot-là, en partenariat avec les sociétés de logistique, les terminaux, à pouvoir donner un avis. Et ça, tout ça s'est fixé dans l'arrêté que je vous ai cité. Je vous donne par exemple l'écriture rapidement de l'article 6 de cet arrêté, si vous le permettez.
Allez-y.
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose soit à la saisie du produit pétrolier non conforme, soit au refoulement du dit produit à la frontière, soit à la consignation pour régénération si ce produit est susceptible de reconditionnement. Voilà. Donc, quand nous sommes dans ce cas-là, il y a un élément qui a posé problème, notamment les soufres, mais c'est à des proportions très raisonnables. Parce que ce produit-là, comme vous le savez, il était destiné au Nigeria, où ils ont une spécification qui accepte les taux de soufre à hauteur de 0,04%. Nous, c'est à 0,03%. Alors, ce produit-là est arrivé ici avec ce taux de 0,04%, alors que notre spécification nous impose de consommer un produit dont le taux en soufre est à hauteur de 0,03%. C'est comme ça que nous avons jugé bon, l'OCC a jugé bon que ce produit soit régénéré. Alors, pour parler rapidement du document de l'OCC qui est écrit sur la toile, c'est un document en interne. Justement, le boulot commence par là. Lorsqu'on fait une analyse, il faudra en interne, justement, que l'OCC fasse son rapport, parce qu'il faut qu'il y ait un rapport avant que le produit ne passe à la régénération. On ne régénère pas le produit sans savoir ce que le résultat a donné. Donc, c'est pas la peine de pouvoir spéculer sur ce travail hautement technique. Et c'est comme ça parce que les ABC des terminaux, ils le font tous les jours.
Alors ça, c'est très important d'avoir rappelé les normes qui sont bien fixées. Il y a même un arrêté à ces sujets, ça ne se fait pas n'importe comment. Alors s'il faut maintenant parler des dangers, lorsqu'on ne sait pas respecter toutes ces normes sur la conservation, sur la manipulation, le stockage, à quoi on peut s'attendre?
Oui, d'abord, il faudra que je rappelle rapidement parce que vous avez parlé de comment ça fonctionne.
Oui.
Je vous ai dit qu'un navire qui arrive, par exemple, à Banane, à Mwanda, il a subi une analyse, les produits seront régénérés et des bananes seront remontées vers le CEP Congo par des barges pour être mises dans les pipes afin de venir ici. Lorsque les produits sont remontés par des barges à CEP Congo, avant de décharger cette barge-là, CEP va encore procéder à une nouvelle analyse parce qu'on ne sait jamais. Le produit peut subir une contamination en cours de chemin. On ne sait jamais. On est très regardant par rapport à cet aspect des normes. Alors, tout produit terrestre, je vous ai dit, est susceptible d'être de subir une régénération en cas de besoin, mais on ne traduit jamais avec le produit d'aviation de kérosène. Quand un kérosène arrive et il ne respecte pas les normes, il n'y a pas de régénération pour le kérosène, on le refoule immédiatement. Parce que pour les kérosènes, nous n'avons pas une spécification spécifique à la RDC, c'est le spec international qui nous régit. Ça, c'est partout. C'est comme ça que vous voyez les avions même des compagnies aériennes internationales arrivent ici, ils font leur refuge, leur avitaillement et ils repartent sans problème. Donc, pour les kérosènes, on ne transige pas. Et pour les produits terrestres, il y a cette disposition, cette façon de régénérer. Alors, un produit qui est mal propre, d'abord, je vous dis, un produit qui n'est pas propre à la consommation, ne passera même pas dans nos installations, ne passera même pas dans les installations, ni des cerfs, ni des saucisses pour se retrouver sur le point de vente. Donc, pour répondre à la question de savoir quelles sont les conséquences des produits qui ne sont pas propres à la consommation, bon, théoriquement, moi je peux vous répondre, mais dans la pratique, ça n'arrivera jamais. Mais théoriquement, retenez que c'est des produits qui vont bouger les moteurs des gens, vous allez avoir, parce qu'il y a tous les paramètres, par exemple, un véhicule qui doit démarrer doit avoir un pouvoir calorifique bien déterminé. Il ne faudra pas qu'il soit très haut, il ne faudra pas qu'il soit très bas, etc. Voilà, donc il y a toutes ces conséquences.
Mais
ça ne se retrouvera pas sur le plan de base.
Alors, à vous suivre, monsieur le conseiller Tony Charmani, dont on se rend compte que dans ce qui concerne ces produits pétroliers, on ne badine pas, il y a vraiment du sérieux, il y a des précautions qui sont prises pour éviter assez qu'on déplore soit des mauvaises conditions de manipulation ou de stockage ou encore des conservations.
On ne badine pas avec les normes, d'autant plus que même les autorisations que les laboratoires d'analyse ont sont délivrées par le ministre des hydrocarbures. Comment voulez-vous expliquer que le même ministre qui délivre même les autorisations aux différents laboratoires de ces terminaux, même les laboratoires de l'OCC requiert pour les analyses de produits pétroliers une autorisation du ministère des hydrocarbures? Alors, c'est le même ministère qui a défini au travers de cet arrêté que je vous ai cité. Je peux vous donner la référence si vous en avez besoin. Et si vous avez besoin d'une copie, vous pouvez passer au ministère, vous acquérir de cette situation. Comment on peut approcher au ministère de pouvoir s'amuser avec les normes? C'est impossible.
Voilà, on revient à vous, Monsieur Tony Charmani, vous êtes conseiller technique au ministère des Hydrocarbures. Avec vous, on parle de la gestion du stock de produits pétroliers. Si ce qui vient de se joindre à nous, si vous êtes intéressé par ces sujets, c'est votre magazine de la vie au quotidien. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à composer les 081-890-63-94 ou encore les 099-76-63-94.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Voilà, on y va avec Serge Kalobia qui nous appelle depuis Kindu. Bonjour Serge.
Bonjour à messieurs les conseillers, à vous les journalistes et à tous les auditeurs.
On vous écoute. Hein. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur la gestion de stocks de produits pétroliers?
D'accord. Moi, j'appelle seulement pour tirer la sonnette d'alarme parce que les conditions de vie des pétroliers chez nous ici dans la province du Maniema posent problème. Pourquoi? Parce que nous sommes mélangés. Vous pouvez trouver ici, il y a les dépôts d'essence, ici, il y a les gens du carburant. Et en fait, il y a les dépôts d'essence. Ici, il y a les gens qui vendent des divers. Donc, c'est confit. Donc, ils n'ont pas leur place propre pour vendre les histoires. Parce que c'est pourquoi nous assistons chez nous ici à tout moment à des incendies. Mais je voudrais quand même poser une question à notre conseiller. Est-ce que dans ce même dépôt, on peut mettre le pétrole, l'essence, les mazoutes et d'autres produits-là? Ça, c'est la première question. La seconde. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu des produits périmés, par exemple, cette essence ici est déjà périmée, tout ça. Est-ce que ça a aussi une date d'expiration? Parce que moi, personnellement, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu, c'est mazout, sinon, c'est déjà périmé, il faut plus vendre ça. Aussi, une autre chose, il y a de l'essence chez nous ici qui se vend, souvent ça arrive dans des filles, mais ça a une couleur, c'est de l'essence, mais ça a une couleur, on dirait que c'est, c'est du pétrole. Mais que font nos petits ici, après avoir acheté, ils lui mettent du jus, du colorant là-bas pour que les produits retrouvent sa couleur rouge. Là, je ne sais pas si c'est rouge. Est-ce que c'est ça, ça peut faire des dégâts dans des véhicules ou dans des motos que nous conduisons ou comment? Ce sont là les questions que je voulais poser à l'invité.
Merci Serge de vous rappeler depuis Akindou. Orsène, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Orsène.
Bonjour, merci Marcel, et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de Radio Kapi.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. J'ai pratiquement quatre questions à poser à l'invité. La première question était celle de savoir quelles sont les différentes étapes du traitement du pétrole. Et la deuxième question, comment fonctionnent les marchés du pétrole? Les marchés du pétrole fonctionnent comment? La troisième question, quelles sont les méthodes? Quelle méthode serait la plus appropriée pour une exploration pétrolière à grande profondeur? Et la quatrième question pour finir, quelles sont les opérations du marché de l'industrie du pétrole? C'était ça mes quatre petites questions. Je ne sais pas si l'invité peut nous aider avec des explications.
Bon, c'est bon. De toute façon, on est en train de parler de la gestion, en tout cas, de produits à pétrole. Mais de toute façon, comme c'est en rapport avec tout ce qui est lié au pétrole, l'invité pourrait bien répondre. Merci, Orsène, d'avoir appelé de Lubumbashi. Pierrot, vous êtes également à Lubumbashi. Bonjour, Pierrot.
Bonjour à l'invité. Bonjour à vous et à tous les auditeurs de la radio Capi. Pierrot Pagnan vous appelle depuis Lubumbashi.
On vous écoute.
Oui, messieurs les conseillers du ministre des hydrocarbures, nous avons parfois des inquiétudes, mais laissez-moi d'abord vous dire que dans les DIO, SNEL, Régie des eaux, nous pouvons associer aussi la CEP, hein, la CEP, pour faire un tuyau où nous avons la SNEL, la Régie des eaux et la CEP. Où nous dormons dans le noir, nous buvons de l'eau jaune et on n'a pas de carburant. C'est ça un dio qui est à la ligne pour
bien. Non, Pierrot, s'il vous plaît, il faut qu'on comprenne. En tout cas, apparemment, j'ai rien compris de ce que vous avez dit. Hein, tu es au Régie des eaux, tu es au CEP, j'ai rien compris. C'est un peu de bien expliquer votre propos. J'ai pas compris moi. Allez-y, Pierrot.
Que vous choisissez, ou parfois aussi ce sont des décisions que vous nous amenez précipitamment qui peuvent être à la base de ce que nous voyons ici. Imaginez, on prend la décision de baisser le prix d'avion. Au moment où nous savons qu'il y a une crise totale, et au lieu que les gens payent même le prix qu'ils payaient auparavant, et ils avaient les avions.
Pierrot, s'il vous plaît, Pierrot. Non, on peut pas continuer. On peut pas continuer. C'est mal entendu avec Pierrot. Hein, le réalisateur doit couper Pierrot. Hein, apparemment, il a une idée fixe en tête. Alors, on ne sait pas ce qu'on prend. Désolé pour Pierrot. Peut-être qu'on va le rappeler plus tard. Alors, on revient à notre invité, Tony Tchermani, conseiller technique au ministère des hydrocarbures. Alors, vous avez suivi ces préoccupations de Serge Kalobia qui a appelé des Kindou, qui a cherché à savoir que c'est bon d'avoir un dépôt d'essence à côté d'autres produits. Il a également cherché à savoir si ces produits, on peut parler de l'essence expirée ou d'un produit pétrolier expiré. Il a également cherché à savoir est-ce que la des gens qui trafiquent de l'essence d'après lui. Et il trouve dans à Kindou, d'après lui, des gens qui prennent il a parlé des produits colorants pour colorer de l'essence qui apparemment ressemble à du pétrole. Je ne sais pas si c'est vrai tout ça, mais qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le conseiller?
Oui, merci à monsieur Serge. J'ai bien compris ces questions.
Oui.
Alors, oui, dans un dépôt, on peut avoir effectivement plusieurs produits entreposés ensemble. Il est question de bien compartimenter les différents. Il faut bien organiser les dépôts en fonction des différents produits qu'on veut stocker. Donc, il ne faut pas les mélanger ensemble, non. Vous avez des tanks bien disposés, un tank qui stocke de l'essence à côté de notre temps qui stocke du mazout, ça c'est possible, mais il faut vraiment bien les séparer, il faut bien structurer tous ces tanks-là, surtout au moment de pouvoir mouvementer ces produits-là. Il ne faut pas confondre, parce que faut pas confondre mettre dans un véhicule à essence du mazout. C'est là qu'il faut bien disposer vos unités de stockage, mettre très bien les écrits, etc., etc., et les inspecteurs ou tout autour pour justement prévoir en cas d'incendie comment intervenir. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Il faut tout simplement bien sécuriser les dépôts et la réglementation des hydrocarbures passées a bien spécifié tout ça. Là, il a attiré notre attention. Nous allons essayer de poser la question à notre chef de division de Kindu pour nous en dire plus par rapport à ce qu'il est en train de faire là-bas. Alors, il a aussi parlé justement des colorants, mais là il faut faire attention. Il y a des pratiques de plus en plus qui s'observent dans la contrebande. Par exemple, des gens qui achètent une petite quantité de produits pétroliers, mais qui les mélangent à d'autres produits pour augmenter le volume. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas accepter. Et c'est là que nous parlons des spécifications. Les spécifications comprennent notamment aussi l'analyse. Il faut analyser les produits pour savoir si c'est conforme ou pas. Alors, la coloration, c'est pas n'importe comment qu'il faut colorer le produit parce que l'espèce exige à ce que ça soit une coloration rouge. Non, c'est des additifs chimiques bien définis. C'est pas n'importe quel, pas des jus, c'est pas n'importe quel colorant additif qu'on va mélanger dans les produits pétroliers. Mais je suis d'accord qu'il y a un effort qui reste à faire à l'échelle nationale. Bref, c'est déployé partout parce que ici, il reste responsabilité pour bien analyser sur l'ensemble du territoire national tous les produits qui sont consommés.
Alors, il est demandé à savoir
là,
si...
Parlant des dates
d'expiration, oui.
Bon, théoriquement, ça ne se passe pas comme ça. Un produit qui est bon peut être stocké pendant autant de temps. Enfin, ça ne pose aucun problème. Si c'est des produits qui n'ont pas un taux de volatilité assez élevé pour ne pas les perdre, hein, ça c'est une chose aussi. Je veux conserver pendant un produit est consommé et conservé pendant un timing bien déterminé parce qu'il est appelé à être consommé. Donc, mais il n'y a pas de date d'expiration comme les autres marchandises pour les PC.
Alors, il y avait également ces différentes questions d'Orsène. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez en dire quelque chose, à parler...
Je n'avais pas bien retenu la première et la quatrième question. Voilà. Mais parlant de la deuxième question, je peux déjà répondre à la deuxième et à la troisième question. Et puis, vous allez peut-être me rappeler la première et la quatrième. Alors, il a posé la question de savoir comment fonctionne le marché
du pétrole. Oui.
Donc, voilà, c'est simple. Donc, le marché pétrolier, il fonctionne sur base des réglementations internationales et nationales. Il faut déjà partir de comment se fixe le prix du produit pétrolier. Vous avez le prix plat, ça c'est à l'international, tout le monde peut consulter. Et à ce prix plat, il faut rajouter ce qu'on appelle premium, on appelle ça le différentiel, ça veut dire l'ensemble des coûts que supporte ce produit depuis les lieux d'achat. Ça peut être la raffinerie, ça peut être... un lieu, par exemple, à Lomé pour les cas d'essai pour la zone ouest ou à Dar es Salaam, depuis le lieu d'achat jusqu'au lieu où vous amenez le produit, tout l'ensemble de toutes ces dépenses que vous engagez et l'opérateur engage, il doit rajouter ça au prix plat internationalement comme publié. Et à ça, il rajoute d'autres taxes, comme il y a à Lubumbashi. Certainement, il y a d'autres taxes provinciales qui se font payer autour sur les produits pétroliers. Mais l'opérateur ou le vendeur de produits doit rajouter tout ça et pour faire son prix. Alors, le reste des choses, comment fonctionne le marché pétrolier? Il faut avoir toutes les autorisations possibles, il faut avoir les agréments du ministère des hydrocarbures. S'il y avait un dépôt, plus des documents ou toutes les autorisations du ministère des hydrocarbures, il faut avoir les autorisations de la DGDA pour opérer en tant que dépôt du type A ou du type B. Donc, mais il faut être en ordre, voilà. Donc, à la... où il a parlé de l'exploration à grande profondeur, ça parallèle beaucoup plus de l'amont pétrolier, mais bon, je vais dire un mot, il faut faire le forage pour aller en profondeur, pour explorer en profondeur, mais le forage non plus ne se fait pas n'importe comment. Avant le forage, il y a toute une série d'études, il y a la prospection sismique, géologique qu'il faut faire pour arriver au forage qui est la phase ultime. Alors, je ne sais pas si
la question... La première question, c'était, il cherchait à savoir les différentes étapes du traitement du pétrole.
Alors ça, c'est la raffinerie, les différentes étapes du traitement ce soir. Vous partez du pétrole brut, évidemment, qui doit être ramené dans une raffinerie. Et puis, vous avez toute une série de traitements de pétrole jusqu'à avoir les produits dérivés.
Alors, je pense que vous avez répondu à l'essentiel de préoccupations de Orsen qui a appelé de Lubumbashi. On va aller à Bounia pour retrouver Héritier qui nous appelle depuis Bounia. Héritier, vous êtes à Bounia. Bonjour Héritier.
Bonjour Monsieur Marcel.
On vous écoute Héritier. C'est un peu de dynamiser votre voix là.
Bon, Monsieur Marcel, je vous ai posé trois questions.
Oui.
La première. Je voudrais savoir si le pétrole peut-il être transporté par d'autres produits comme les vêtements ou bien des produits.
J'ai pas bien compris. Désolé, vous avez. C'est quoi votre première question?
La première question est de savoir si le produit pétrolier peut être transporté par d'autres produits comme les vêtements, les produits que nous pouvons consommer. Parce que ça ne peut pas avoir un impact sur la santé.
D'accord. Et la deuxième question?
La deuxième question est de savoir comment identifier les produits bruts, les produits pétroliers qui sont bruts et les semi-bruts. On peut pouvoir identifier ces produits-là.
Et vous avez dit, vous avez une troisième question, c'est quoi la troisième?
La troisième question, c'est quoi? Quels sont les milieux qui sont valables pour la conservation des produits pétroliers? Par exemple, vous regardez, en pleine ville, il y a certains services qui sont construits. Alors, je voudrais en savoir, à partir du conseiller au ministre des hydrocarbures, je voudrais savoir les milieux qui sont favorables pour la construction de service.
Voilà, merci. Merci à Héritier d'avoir appelé depuis Bounia et Sokoa, lui il est à Kindu. Bonjour Sokoa.
Bonjour Marcel, bonjour aussi à l'invité qui est au plateau de la radio Okapi.
On vous écoute.
Bonjour. Ok, depuis 1960, depuis que Lumumba avait demandé l'indépendance, jusqu'à nos jours, en tout cas, le pays est toujours en échec. Je ne sais pas pourquoi. Alors que la Constitution dit gouverner, c'est prévoir. Ici, à Kindu, nous avons un sérieux problème, monsieur l'invité, concernant, n'est-ce pas, donc, le carbure. Hein? Un litre coûte aujourd'hui 5 000 francs. Et demain, ça sera à 7 000, à 8 000. S'il y a des taxes par des provinces, à Kindu, les taxes, donc, se multiplient comme des champignons. Nous avons des patrons qui sont ici à Kindu. Ils ont aussi besoin d'amener des carbures ici à Kindu. Mais il faut faire aussi des taxes, monsieur l'invité. Alors, comment est-ce que notre pays sera un jour développé? En tout cas, c'est grave. Il faut que le gouvernement aussi doive aussi... doivent aussi nous donner en tout cas c'est ça ma préoccupation, en tout cas j'ai marqué même les mots à dire.
Merci Esokoa depuis Kindu. Merci, on va aller à Bounia pour retrouver Justin. Bonjour Justin.
Bonjour Marcel, bonjour à notre invité.
Vous avez la parole Justin.
Oui, merci beaucoup pour la thématique monsieur Marcel. Oui, néanmoins, j'ai une suggestion avant que je passe à mes préoccupations, M. Marcel.
Oui.
Oui, à ce qui concerne la gestion, en tout cas, des produits pétroliers, dans notre pays, il y a une mégestion de la part de nos dirigeants et donc de nos autorités congolaises. Parce que tous les yeux sont braqués maintenant sur les produits pétroliers. Je ne sais pas si ce secteur. C'est là où il y a les opérateurs économiques qui ont beaucoup d'argent. Et aussi par rapport à la construction anarchique, parce que les gens, on était plus compte de construction. On peut construire, est-ce qu'on peut construire une station proche d'une église ou proche d'une école ou proche d'un marché? Bon, en tout cas, il y a une mégestion totale. Peu importe que ces opérateurs économiques contribuent au niveau du trésor public, mais en tout cas, notre État doit être sérieux quant à ça. Oui, ma question est celle de savoir, monsieur Marcel, lorsque il y a une gestion, ou soit il y a la vente des carburants, est-ce que cet argent que les opérateurs perçoivent, est-ce que comment ils manipulent ça, M. Marcel? Merci et bon début de week-end.
Merci Justin. Depuis Bougnon, revient à notre invité, le conseiller Tony Tchermani. Alors, il y avait ces questions de héritier qui a cherché à savoir comment différencier un produit brut et un produit semi-brut, et puis où sont les endroits les mieux indiqués pour conserver ces produits.
Ok, je vais commencer par oui, bon, vous avez donné une bonne thématique, mais bon, je crois que les questions sont
exactement, tout à fait.
Tout à fait autre.
Oui.
Mais alors, le produit brut, le pétrole brut, comme on l'appelle, ça a une définition tout à fait scientifique, chimique. Hein, on ne vante pas. C'est un composé organique constitué d'atomes, de carbone, d'hydrogène, et puis voilà, et qui peut être utilisé comme carburant combustible ou pouvoir servir de matière de base pour l'industrie pétrochimique. Bon, ça, c'est la définition comme ça qu'on peut donner à ce qu'il appelle le pétrole brut. Et les produits pétroliers, comme je l'ai encore dit, c'est tout produit provenant de la transformation de ces produits bruts, là, sous quelque forme que ce soit. Et qui donne beaucoup d'autres dérivés et qui peuvent être commerciales. Alors, l'endroit idéal pour conserver sont notamment, justement, je parlais des dépôts qui sont bien structurés, mais des dépôts pas dans les fûts ou bidons. Il faut le mettre dans les tanks, dans les réservoirs bien construits, des réservoirs qui répondent aux normes, des réservoirs à double coque, etc., qui puissent aussi résister en cas de problème ou si jamais il y a des incendies qui arrivent. Bon, alors, il y a ensuite monsieur, de Kindou.
Qui a parlé lui lui il est revenu sur le prix et puis les différentes taxes qui d'après lui rendent un peu la vie difficile. Je vais parler des petits opérateurs qui vendent du pétrole ou du carburant dans le coin.
Oui, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le produit pétrolier est réglementé. Le prix du produit pétrolier est réglementé. La RDC, à Revue Démocratie du Congo, on ne vend pas les produits pétroliers à n'importe quel prix. La RDC est subdivisée en quatre zones. Aujourd'hui, vous avez la zone ouest, vous avez la zone sud, Katanga, Lubumbashi, vous avez la zone nord qu'on a créée, et puis il y a la zone est. Kindu se trouve dans la zone est, et chaque zone, le prix du produit pétrolier est fixé au travers de la structure des prix, qui est un arrêté du ministre de l'Économie nationale, et qui fixe les prix du produit pétrolier. Alors, aujourd'hui, le prix du produit pétrolier tel qu'il est fixé par l'arrêté du ministre ne revient pas à 5000 francs le litre. Donc ça, c'est un problème. Et aussi, la structure des prix détermine exactement toutes les taxes qu'il faut payer autour de chaque litre vendu. Donc il n'appartient pas non plus aux provinces ou aux entrepreneurs ou aux opérateurs de pouvoir ajouter des prix qui n'existent pas ou des taxes qui n'existent pas dans la structure des prix. Donc ça, une fois encore, nous allons nous rapprocher de nos collègues de l'économie nationale. Moi, je vais remonter l'information à ma hiérarchie, à son excellence, M. le ministre Fabu. Et nous allons aussi interpeller notre point focal, les chefs de division provinciale, pour qu'ils puissent s'approcher de son collègue provincial et voir comment, dans quelle mesure, faire appliquer cette structure des prix. Parce que c'est pas un arrêté qui a été signé avant. C'est un arrêté qui a été signé pour réglementer le secteur. Alors, il y a M. Justin qui a fait des bougnes. Il a fait quelques observations, il a parlé de la gestion du secteur, il a parlé de la construction anarchique des stations-service. Vous avez tout suivi, le chef de l'État lui-même avait déjà dénoncé ces quatre choses, ça veut dire la construction des stations, la construction anarchique des stations. Juste après, il y a une commission qui a été mise, au moment où nous parlons ici, il y a une commission qui est en train de siéger au ministère de l'Urbanisme, parce que ça relève de la... ça relève de la responsabilité de ce ministère de l'urbanisme qui octroie qu'on appelle autorisation de bâtir. Ça commence par là. Alors, une station ne déroge pas non plus à ces règles-là. Lorsque vous voulez bâtir une maison ou une station, vous commencez par solliciter une autorisation de bâtir. Et tout le problème se trouve à ce niveau-là. Tout le problème se trouve à ce niveau-là. Les gens pensent souvent que c'est le ministère des Carburants qui est à l'avant-plan pour octroyer des espaces à construire les stations. Non, c'est d'abord le ministère de l'urbanisme qui est à l'avant-plan, qui octroie des terrains ou des espaces. Et nous, nous venons donner les autorisations pour opérer en tant que station. Mais maintenant, les choses doivent changer. Nous avons déjà le ministre des Hydrocarbures, son excellence Didier Boudimou, est clair à ce sujet. Désormais, il veut que le ministère de l'urbanisme donne l'autorisation de bâtir, mais que le ministère des Hydrocarbures commence à donner l'autorisation d'implanter une station.
Ah, ça, c'est très. Ça serait une façon de vraiment mettre de l'ordre dans les secteurs. Hein. C'est une très bonne idée. Oui.
Et ça sera comme ça, et le travail a commencé, les experts ont déjà commencé à passer station par station. Déjà, ça a commencé à Kinshasa, et le travail va s'étendre en province. On va répertorier exactement, le ministère de l'urbanisme fait son travail pour voir l'espace travail. Parce qu'il y a déjà un problème, je peux ouvrir une parenthèse qui va fermer rapidement. Au ministère de l'urbanisme, l'autorisation de bâtir est octroyée par plusieurs entités. Le ministère octroie, l'hôtel de ville octroie, même les bourgmestres octroient. Donc, ça pose un problème. Alors, quand quelqu'un introduit sa demande au ministère et qu'il y a refus de lui octroyer l'autorisation, il va à l'hôtel de ville sans que le ministère ne sache qu'il est allé à l'hôtel de ville. Et si l'hôtel de ville lui refuse ça, il va même au niveau des communes, etc. Et donc, ça pose problème. Ça pose d'énormes problèmes. Je crois que là aussi, il y a un travail qui est en train d'être fait. Je vous ai dit, il y a une commission interministériel ad hoc, hydrocarbures urbanisme qui se met déjà au travail. Je crois que dans les jours à venir, il y aura un résultat pour corriger tout ça.
Justement, monsieur le conseiller, on voulait profiter également de votre passage sur nos antennes au cours de cette émission pour avoir une idée sur cette enquête de viabilité des stations servies recommandée par le chef de l'État. Vous avez une idée où on en est maintenant du travail? C'est fait déjà?
Oui, le travail se fait déjà, mais bon, je réserve la primaire des données, le résultat préliminaire de ça aux autorités.
Voilà, bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons de la gestion du stock de produits à pétrolier avec Tony Tchermani, conseiller technique au ministère des Hydrocarbures. Si vous êtes intéressé, vous avez des questions à poser, composez les 081-890-63-94 ou les 09-76-63-94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Et voilà, on va poursuivre avec les auditeurs. Nous avons Safari qui nous appelle depuis Iga Barrière. Bonjour Safari.
Bonjour, bonjour aussi à monsieur le auditeur.
On vous écoute Safari.
Ah oui, d'accord. Un jour, je m'étais trouvé devant une situation où j'étais allé acheter le produit qu'on appelle mazout, hein. À la station, on avait mélangé les produits. Donc, les gens ont pris huile de lin, donc communément appelé pétrole, ils ont mélangé ça au mazout. Donc, c'est ça la réalité déjà laquelle je m'étais retrouvé. Mais je demande même à monsieur Lévité, les produits mélangés comme ça, les produits pétroliers mélangés comme ça, est-ce qu'ils peuvent être encore propres vraiment à la consommation? C'était ça ma préoccupation. Mais malgré ça, le produit avait très bien travaillé. Avec le moteur auquel, donc, j'ai travaillé. Donc, le produit n'avait pas de problème. Mais est-ce que c'était vraiment propre à la consommation? C'est une question pour M. Lévité. Bonne journée.
Merci, Safari, d'avoir appelé depuis Iga Barrière. Hassani, vous êtes à Lobuto. Bonjour, Hassani.
Bonjour, moi, c'est Igo Hassani, depuis Lobuto, Nord-Maniema.
On vous écoute.
Je voulais demander à l'invité pour savoir comment est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que la loi a prévu à ce qui fait les produits pétroliers avec les mélanges, parce que ça va endommager les outils, les véhicules, les générateurs. Est-ce que qu'est-ce que la loi avait prévu vraiment, pour quelles sanctions que la loi avait prévu?
Voilà, merci Hassan depuis Lubuntu. Monsieur le conseiller Tony Charman, vous avez la parole.
Donc, il prévoit la loi pour les produits qui est mélangé. Effectivement, ça s'appelle... Alors, il y a une sanction. Lorsque le produit pétrolier est mélangé, il y a toute une sanction qui est prévue. Il y a un arrêté interministériel qui est pris par le ministre des Finances et le ministre des Hydrocarbures. Et il y a un des points qui porte justement sur les amendes transactionnelles pour notamment motif de frelatage et fraude sur les produits pétroliers. Ça signifie, lorsque vous avez mélangé des produits comme ça et qu'on passe le contrôler, il y a un problème. Vous avez une amende qui peut aller jusqu'à 5 000 à 10 000 $ le mètre cube si on vous attrape. Alors, il est nécessaire, il est important de comprendre aussi que ici à l'Ouest, dans la zone Ouest, il y a déjà un programme qui est mis en place par le gouvernement en partenariat avec une firme américaine qui s'appelle Authentix. Donc, c'est un programme qui aide le gouvernement à pouvoir justement déceler si le produit est mélangé ou non, si le produit est propre à la consommation en termes de la mise en place d'un produit qui paye toute la fiscalité à l'État congolais. Donc ça, c'est déjà un programme qui fonctionne parfaitement bien ici dans la zone Ouest. Dans les jours à venir, là, on est en train de travailler pour que le programme soit déployé sur l'ensemble du territoire national pour justement arriver à mettre fin à ce phénomène de freinage. Donc la réponse est, dès que vous avez des cas comme ça, les produits et il y a une sanction, une amende transactionnelle derrière qui est lourde. Je vais vous donner la hauteur de cette amende qui varie de 5 000 à 10 000 $ par mètre cube. Donc faites vous-même les calculs si on vous attrape avec un tel produit. Alors, je crois que c'est la même préoccupation aussi pour M. Safar de Pitigaparière qui a dit qu'un jour il a acheté du mazout qui était mélangé au pétrole, mais que le moteur avait démarré. Non. Ce produit, il est impropre à la consommation. S'il avait un outil qu'il faut auprès d'un mécanicien, le mécanicien allait bien les renseigner sur les conséquences directes, immédiates que ce produit a causé sur son moteur. Ça, c'est évident. Donc là, je crois qu'il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance que même que son moteur puisse démarrer, parce que mélanger du mazout au pétrole, bon, ça, il ne faut plus jamais faire ça.
Voilà, c'est bien de le souligner, monsieur le conseiller, parce que on peut se dire que voilà, puisque ça a marché une fois, ça marchera toujours comme ça, alors que c'est pas du tout normal. Il y a des normes qu'il faut respecter dans ces secteurs. Vous l'avez dit au début, c'est un secteur où on badine pas, tout doit se faire dans les normes. Alors cette question qui me vient à l'esprit, parce qu'on s'achemine vers la fin de cette tranche, de cette première tranche du magazine au Capi Service avec ces sujets sur la gestion du stock de produits pétroliers. Vous avez insisté qu'il y a des arrêtés, il y a même la loi qui parle de cette gestion, et tout doit se faire en respectant le ces arrêtés. C'est pas des choses qu'on peut le faire de gaieté de cœur. Ça, c'est, j'aimerais vraiment que vous reveniez par rapport à ça, et ça sera votre conclusion, oui. Parce que beaucoup de gens des fois ne savent pas que le secteur pétrolier c'est un secteur où il faut beaucoup de sérieux.
Voilà, donc merci d'avoir insisté sur ça. Ce que je dois dire comme mot de la fin, c'est que le secteur des carburants est régi par une loi. Et cette loi est soutenue ou complétée par une réglementation. Et cette réglementation est aussi complétée à son tour par des arrêtés qui soutiennent ardemment cette législation des hydrocarbures. Donc, il ne faut pas penser un seul instant que, surtout en matière de spécifications, il y a des choses qui doivent se faire hors normes. Non, ça n'existe pas. Et même les gens doivent retenir. Toute personne qui continue jusqu'à aujourd'hui de vendre son produit pétrolier dans un coin de la République sans avoir un seul document en termes d'autorisation, qu'il sache qu'il est en train de commettre une faute et que le jour où on va l'attraper, il y aura un problème. Bon, ensuite, la question des communications, peut-être il faudra qu'on communique aussi assez. Au niveau de nos divisions, nous allons insister, les divisions provinciales et tout ça, nous allons insister pour que notre administration fasse aussi accentue la communication sur ces genres d'éléments pour que les gens soient informés. Et la dernière chose, la spécification, c'est quelque chose de très très fondamental pour nous. Donc ce qui se passe sur les réseaux sociaux, par exemple s'agissant du dernier navire qui est arrivé, écoutez, l'État ne peut pas s'amuser avec des choses comme ça. Qu'on arrête de polémiquer sur un sujet qui n'existe pas, qu'on arrête de polémiquer sur une faute soi-disant qui n'existe pas. Donc tout est transparent, tout est clair, tout s'est fait suivant cette réglementation. Je voudrais donner lecture même de l'arrêté fixant spécification des produits pétroliers mis à consommation à la République démocratique du Congo.
Alors, monsieur le conseiller, juste peut-être en Lingala, vous savez comment Kinshasa a été vraiment durement secoué par cette pénurie avec beaucoup de spéculations. Peut-être un mot en Lingala pour calmer les esprits par rapport à la pénurie.
Oui, na lingala kana lo baboye bandeko bandeko ya Kinshasa boye ba ete ministère des carburants, secteur des carburants, secteur moko oyo ezoka mama na ba mibeko eza na sima. Donc mutu moko te akomema pétrole na ye akomema carburant na ye ndenge tolobaka sans que carburant na ezala conforme na ndenge mibeko lobi et respecté ba réglementation et respecter ba norme au nyoso et comment on y na mibeko ya biso biso moko ministère d'abord tozo ko to sango pe to yebisi ba tunyo so ba to sa pe mibeko wana mutu moko te ako sala activité ya koteka petrolo sans que azala na ba autorisation nyoso et sans que a respecter mibeko wana ndenge et comment na mikanda ya ministère des carburants. Donc boza la kimia ata moko te mutu ata mokolo moko te boza la servi na ba station o ya biso awa na Kinshasa na ba carburant o eza conformité eza impropre à la consommation. Ministre Didier Bouni bako permettre jamais parce que moko azo respecter loi ndenge komami ako permettre te atam ko moko te batu baza la servi na carburant o ezo respecter oye komami na mbi kote.
Donc pour la pénurie à carburant ezo le lisa batu ezo tungisa batu.
Wana pénurie ya carburant tungisa batu ezaki mwana koko so mke le kaki me wana eza za maîtrisé tikali sima na biso maîtrise na ni pénurie na eza sute tozali na problème stock ya carburant kitaki me ba il faut rester salemi carburant se komi alors ba dongolo miso yango balingi suba profiter soki koloba nini o carburant mauvaise qualité quantité carburant mauvaise qualité ata moko te koti na mboko oyo. Donc ba carburant nyonso zote kama eza carburant ya bonne qualité son carburant ye to resita o to bengi spécification différence c'est cause à mouke na spécification ya carburant ki musika parce que to rafina carburant c'est carburant nous sommes sur la libanda ya mboka. Alors il faut pe po yeba po carburant et respecter spécification mboka il faut que même spécification na usine o to bengi raffinerie ba kosale la yo carburant ndenge sengeli na po na mboka na yo. Alors ce qui passe posa na cas urgence ndenge biso to zomegi na cas urgence to ko somba carburant zala ki na haute mer carburant bando ki na Nigeria biso to bino biso to zana problème to ko tika mboka na biso boete ministre a décidé na collègue na ya finance ba décidé po carburant bando ki na Nigeria e koma na mboka na biso awa. Alors ce qui carburant bando ki na Nigeria e ye awa na mboka na biso eza na element moko sur ce qui 8 ce qui 10 éléments ba analyse ka na produit pétrolier moko ka kezangi mo na différence muke. Donc oyo tozo lo bezangi oyo to bengi to ya soufre na biso mbeko na biso lo bifo za la 0.03% mais yango carburant comme qui na 0.04%. Alors yango sengi ke basa la oyo to bengi génération régénération yango misale salemi c'est tout et loka mabe on ezate et là loka comme na mbeko biloka régénération comme na mbeko yebani sale baka entre OCP azo surveiller nos situations superviser msalama na société ya logistique oya ami produit en avant faire respect ça on a souci. Donc produit moko te mabeza na point de vente tout moko banga te et puis pénurie pe kozala te makama na pe sile nango parce que bazui solution son excellence monsieur le ministre azo ki solution na problème wana. Donc ba fila na za souke.
Merci Tony Tcharbani, nous rappelons que vous êtes conseiller technique au ministère des hydrocarbures. Merci d'avoir été des nôtres et bonne journée à vous.
C'est moi qui vous remercie.